Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 25 juin 1791, le retour de Varennes. À Paris, le 21 juin 1791. Durant les heures qui suivent la fuite de la famille royale, l'Assemblée siège en permanence. Le seul événement marquant est la lecture de la lettre laissée par Louis XVI. Elle est accueillie avec inquiétude d'abord, avec soulagement et dédain ensuite. Le roi y énumère la longue série de sacrifices qu'il a consentis pour la nation. Sa seule récompense a été, je cite, « la destruction de la royauté, tous les pouvoirs méconnus, la propriété violée, la sûreté des personnes mises partout en danger et une anarchie complète établie au-dessus des lois. » Il dénonce le vain simulacre de la royauté. Le roi n'a aucune participation à la confection des lois. L'administration intérieure est tout entière dans les mains des départements, écrit-il. Depuis, les députés étudient le nouveau code pénal et discutent des problèmes douaniers. Des fugitifs, aucune nouvelle. Une vague de suspicions, de dénonciations partent de Paris, s'étend dans toute la France. Malles, coffres, colis transportés par les voitures publiques sont régulièrement visités. Le 22 juin, vers 22h, une clameur monte dans l'enceinte de l'Assemblée. Le roi est arrêté, le roi est pris. Aussitôt, deux hommes blancs de poussière, fourbus, sont presque portés dans la salle des séances. L'un est le chirurgien Jean-Nicolas Mangin, qui a quitté Varennes peu après l'arrestation du souverain. Il est arrivé à Châlons ce jour à 8h. Il y a retrouvé Pierre-François Palois, le destructeur de la Bastille, parti la veille à la poursuite de Louis XVI. Les deux hommes galopent de conserve jusqu'à Bondy, où Mangin sème son compagnon, mais Palois est tenace, il parvient à retrouver le Varennois devant la porte de l'Assemblée. Le secrétaire de séance donne lecture des dépêches provenant des municipalités de Sainte-Menehould et de Clermont-en-Argonne. Elles sentent la poudre. Ville garnie de troupes, la patrie est en danger. D'autres troupes sont sur le point d'arriver. Vite à notre secours, venez sans perdre de temps. Elle déclenche un immense tumulte. Les députés décident les mesures les plus pressantes et les plus actives pour protéger la personne du roi. Pour l'exécution de ces dispositions, messieurs Latour-Maubourg, Pétion et Barnabe se rendront à Varennes et autres lieux où il serait nécessaire de se transporter avec le titre et le caractère de commissaire de l'Assemblée nationale. Ils seront accompagnés de M. Dumas, adjudant général de l'armée, chargé d'exécuter leurs ordres. Le 23 juin, à 9h, les députés déjeunent à la Ferté-Soujard. Ils apprennent que la famille royale a passé la nuit à Châlons et que le cortège se dirige vers Meaux par la route de Château-Thierry. Ils le rejoignent peu après 19h, précédés d'un huissier. Les trois députés s'avancent vers la voiture royale. Jérôme Pétion donne lecture à Louis XVI du décret de l'Assemblée, donnant plein pouvoir au commissaire. Le ton est respectueux de la dignité du souverain. Le soir, la famille royale fait étape à Dornans. Elle loge à l'auberge du Louvre, tenue par le maire Jean-Baptiste Truet. Sa fille aînée, Augustine Rosalie, a épousé Jean Landrieux, avocat au Parlement, inspecteur des relais et secrétaire aux avis de Monsieur, frère du roi. La Révolution l'a contraint à abandonner ses charges et à se réfugier chez son beau-père. Ses sentiments royalistes l'invitent à concevoir un plan hardi d'évasion. Le roi dort dans la chambre située à l'arrière de la maison. Elle s'ouvre par deux croisées sur le jardin en terrasse qui communique avec la rivière par un petit escalier. une barque qui est amarrée pour traverser la Marne. Sur l'autre rive, à Vincelles, se trouve le vendangeoir de la famille Truet, où sont placés trois vigoureux chevaux et une charrette couverte matelassée avec soin. Elle permettra à la famille royale de gagner la Ferté en Tardois, puis recroît pour franchir la frontière. Louis XVI refuse ce plan en affirmant « Je compte sur ma bonne ville de Paris, je ne l'ai quittée que malgré moi, sur de fausses insinuations ». Vers 7 heures, le 24 juin, sous les yeux de Landrieux désespéré, la famille royale et les commissaires de l'Assemblée s'entassent dans une voiture. La berline passe lentement devant les gardes nationaux qui présentent les armes. Les drapeaux s'inclinent, saluant la royauté prisonnière. À 11 heures, ils entrent dans Château-Thierry. La berline relaie, les habitants se sont portés en foule au bord de la Marne pour insulter la famille royale. Après avoir couché à l'évêché de Meaux, elle entre dans Paris le 25 juin. La berline surchargée de grappes de patriotes atteint la barrière de l'Étoile et descend les Champs-Élysées, puis gagne le jardin des Tuileries. La voiture s'arrête, la portière s'ouvre, le roi paraît et se dirige calmement vers le château. Un silence méprisant l'accueil. Il est suivi des enfants et de Marie-Antoinette. Le parti républicain naît à la suite de la tragédie de Varennes, mais moins de 14 mois, pour jeter à bas la plus vieille monarchie européenne. Le 10 août 1792, par une matinée éblouissante de soleil, Louis XVI abandonne les Tuileries, marchant vers les députés en qui il veut avoir confiance et qui, trois jours plus tard, le livre à la Commune insurrectionnelle. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Françoise Hardy qui nous accompagne durant cette émission Historama avec Mon ami la rose.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née. Baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. De choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier. Et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues. Et qui me souriait. Crois celui qui peut croire. Moi j'ai besoin d'espoir. Sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres. Il s'agit aujourd'hui de deux livres et des livres audio publiés par les éditions Gallimard dans la collection Écoutez, lire. Alors pour commencer, Le premier homme d'Albert Camus, lu par Sébastien Poudreroux de la Comédie Française. Le premier homme, c'est un livre inachevé, inabouti, le premier d'une trilogie dont le manuscrit est retrouvé dans la sacoche aux côtés du cadavre d'Albert Camus lors de l'accident de voiture qui va lui coûter la vie le 4 janvier 1960 aux côtés de son éditeur Michel Gallimard. C'est un projet autobiographique, même si la dimension autobiographique va progressivement s'échapper de ce texte littéraire. C'est l'histoire de Jacques Cormery, l'alter ego d'Albert Camus, qui évoque son enfance de pied-noir algérien en quête de son père tué aux prémices de la Première Guerre mondiale. Le père d'Albert Camus est inhumé dans le carré militaire du cimetière de Saint-Brieuc. C'est un travail de longue haleine qu'a été la mise en forme de ce manuscrit et sa publication en 1994. Vous pouvez donc retrouver le prix Nobel de littérature, l'auteur de La Chute et de L'Étranger, Albert Camus, à travers la voix de Sébastien Poudreroux de la Comédie Française dans cette excellente collection Écouter, lire, publiée aux éditions Gallimard. Le second opus de cette chronique est signé Michel Houellebecq. Il s'intitule « La carte et le territoire ». C'est le prix Goncourt de l'année 2010. Et c'est Philippe Duclos, narrateur talentueux et plein d'humour, qui nous lit ce récit qui porte sur le déclin de notre société à travers le parcours d'un artiste peintre, Jed Martin. Nous retrouvons à ses côtés son amante, Olga Cheremoyova, et son père, Jean-Pierre Martin, qui est volontiers dépressif. C'est un regard acerbe, comme Michel Houellebecq sait particulièrement le porter, sur une société moribonde, dévorée par le mal-être, la société occidentale. La carte et le territoire de Michel Houellebecq est donc dans la collection Écoutez lire aux éditions Gallimard, et j'insiste sur la qualité des publications sonores proposées par cette collection Écoutez lire. Voilà pour ces deux ouvrages que je tenais à vous présenté et que je vous recommande chaudement. Nous allons refermer cette émission Historama en chanson avec toujours Françoise Hardy. Nous écoutons Le temps de l'amour.
Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps
de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
We'll be right back.